Ça reprend, c'est le moment.
Bah, quel moment?
Celui de la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Vous avez déjà ressenti ça, ce drôle de vertige, cette impression fugace entre deux pensées, qu'on aurait pu faire quelque chose mais qu'on ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'on ne savait pas comment, parce que, allez savoir, on n'a pas appris à faire autrement. Et pourtant les discriminations, elles, savent très bien comment faire, elles s'installent en silence, se faufilent dans les non-dits, se glissent dans un sourire gêné, un regard détourné, elles prospèrent là où on baisse les bras, là où on n'ose pas. Ce soir, ce midi, on va parler du courage, pas celui des héros de cinéma, non. Le courage discret, celui qui dit non sans crier, celui qui se glisse dans une réplique, un silence brisé, un regard qui ne lâche pas. Notre invitée aujourd'hui, Floréal Soto, a fait de ce courage social son combat. Elle est spécialiste des discriminations, des problématiques, du harcèlement et des violences sexistes. Elle sera présente à Mayenne le 25 mars pour animer une conférence active dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations organisées par le collectif Unissons nos différences. Et ensuite, on poursuit notre immersion dans le programme Alterfix qui accompagne les futurs agriculteurs en Mayenne. Après avoir découvert les enjeux de la transmission d'une ferme dans le premier épisode hier, place maintenant aux porteurs de projets. Maëlle et Nathan, deux jeunes en quête d'installation, nous racontent leur parcours, leurs doutes et leurs aspirations. C'est le deuxième épisode de cette série de reportages. Et puis mardi, je le sais, c'est une journée que vous aimez bien puisque c'est celle de la lecture de l'auditeur que l'on retrouve pour ouvrir la seconde partie de votre émission quotidienne. Puisque oui, vous écoutez l'agité du local, bienvenue, amis auditeurices, et comme j'en suis aux formules de politesse, je ne manque pas de vous saluer, de saluer mes copilotes, les copilotes de cette émission, Maxime et Ronan. Comment vous allez les garçons?
Bonjour Margot, bonjour à tous, ça va très bien, merci.
Bonjour à tous, ça va super, et toi Margot?
Ça va très bien, je te remercie. Et puis ça va toujours très très bien puisqu'on termine avec notre chroniqueur Donatien qui nous parle aujourd'hui des grands de ce monde. Vous savez comment commence cette émission et comment elle se termine. Vous savez donc ce qu'il faut pour rester jusqu'au bout avec nous. Alors vous êtes prêts, tout comme moi, à passer à l'entretien du jour. L'agité du local sur l'autre radio. Je le disais en introduction de cette émission, nous sommes aujourd'hui avec Floréal Soto. Vous êtes spécialiste sur les questions de discrimination, de harcèlement et de violence sexiste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir, merci à vous.
Aujourd'hui, on va parler de la conférence que vous allez proposer au Mayennais le 25 mars. Il s'agit d'une conférence active, alors nous verrons ensemble plus précisément ce que c'est justement. Mais alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi quand même de mentionner le titre de cette conférence, « Agir contre les discriminations, renforcer son courage social ». Pour commencer, Floréal, et pour bien comprendre votre parcours, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans la lutte contre les discriminations et à créer justement des formations sur ce sujet.
Alors c'est un sujet, je dirais, qui m'a touchée dès un très jeune âge parce que je suis devenue extrêmement sensible aux inégalités systémiques au sein de notre société et ça m'a très tôt donné envie de faire ma part pour contribuer à mettre en place une égalité réelle dans notre société. Donc c'est venu pour moi sous la forme de formations, de conférences, en fait d'actions que j'appellerais à un niveau interindividuel parce que il me semblait important de travailler, en tout cas avec toute personne que je peux rencontrer, pour essayer de faire un déclic et d'accompagner ces personnes dans une capacité individuelle à davantage agir contre les discriminations.
Vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis. Comment ça a influencé votre manière de travailler sur les discriminations en France ?
Alors en fait, aux États-Unis, ce qui a été particulièrement intéressant pour moi, c'est que j'ai rencontré une quarantaine d'organisations, on va dire, de terrain, qui notamment portaient des projets autour à destination de publics jeunes. Et c'est des formes d'action qui n'existaient pas du tout à ce moment-là en France, extrêmement participatives, co-créatives sur ces questions-là, et qui avaient aussi pour intérêt d'adresser directement les questions des rapports de domination, des privilèges. Et c'était un vocabulaire qui n'était pas du tout utilisé à ce moment-là en France. Et ça m'a permis, on va dire, de développer une pensée en l'adaptant au contexte français et de développer, en fait, des pédagogies un peu différentes pour amener, on va dire, de l'engagement sur ces questions.
On parle de conférence active. Alors, quelle est la différence peut-être avec une conférence classique pour expliquer à l'auditeur ?
Alors, la conférence classique, elle est plutôt axée sur le fait de diffuser des connaissances, et donc ils sont ce qu'on appelle plutôt des savoirs froids, théoriques. La conférence active, elle va alterner en fait l'apport de connaissances théoriques, on va dire, qui va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes discriminatoires, mais tout en alternant avec des moments de réflexion, d'exercice, de manière à ce que les personnes puissent s'approprier le savoir en créant avant tout leur propre réflexion et en la mettant en pratique à travers des exercices.
Et alors justement, vous parlez de renforcer son courage social. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je trouve que ce terme est fort et c'est intéressant de s'arrêter dessus.
Alors le courage social, ça va être la capacité à réagir face à des propos discriminants qui vont être quotidiens ou à mettre en place des actions, par exemple à l'échelle de sa structure ou pourquoi pas au niveau politique. Le courage social, on a parfois l'impression que c'est l'acabit de personnes qui auraient une forte personnalité, mais en fait, de mon point de vue, c'est une compétence comme toute autre compétence qui doit être développée, qui peut s'apprendre, qui peut à laquelle on peut s'entraîner, réussir, échouer, débriefer, etc. Mais tout le monde est en capacité de se mobiliser face à ces petites discriminations du quotidien. Et donc, c'est vraiment ça que j'appelle le courage social. C'est une aptitude à développer, quelle que soit notre personnalité, notre style, etc., et qui demande un entraînement.
On a l'impression, en tout cas, d'être de plus en plus sensibilisé à ces thématiques-là. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'agir contre les discriminations, même quand on se sent concerné et quand on a été déjà fortement sensibilisé sur ces questions-là?
En fait, la société, elle est structurée par des normes sociales qui vont en fait maintenir des formes de hiérarchisation dans la société et qui ont pour objectif, on va dire, de s'assurer que certaines personnes soient plus privilégiées au détriment d'autres personnes. Donc ça, on est sur des mécanismes qui sont systémiques, qui sont pas du tout forcément volontaires de la part de la plupart des personnes, mais en fait, on internalise ces normes sociales, ce qui fait que si on fait pas un travail de fond pour, on va dire, détricoter nos représentations, nos biais cognitifs, des manières de nous comporter qui sont pas forcément interrogées, on va reproduire d'une manière inconsciente ces discriminations. Donc en fait, c'est vrai que pour qu'il y ait un engagement important, ça va demander en première étape de faire ce travail de déconstruction. Et dans une deuxième étape aussi, c'est que simplement, parfois, on ne sait pas forcément comment faire, quoi faire. On a peur d'agir parce qu'il peut y avoir des formes de représailles, qu'elles soient symboliques ou plus matérialisées. Et donc ça, ça demande un accompagnement pour pouvoir développer sa capacité d'agir. Donc voilà, c'est un peu ce qui peut empêcher le fait qu'on agisse alors même qu'on a le souhait d'agir contre les discriminations.
Comment est-ce qu'on peut identifier nos propres biais et éviter justement, en l'occurrence ici, de discriminer involontairement?
Déjà, de comprendre et de mieux connaître comment fonctionnent les biais cognitifs, déjà c'est extrêmement intéressant, on va dire, d'une manière élargie. Mais c'est vrai que sans cette connaissance, on ne se rend pas compte de comment notre cerveau peut nous duper dans la perception des informations. Donc c'est vraiment une base, c'est déjà de mieux connaître, de mieux comprendre. Et puis, une petite recommandation très simple, par exemple, ce serait de demander à nos proches si parfois ils ont l'impression, ils ou elles ont l'impression qu'on tient des propos qui peuvent être discriminants, par exemple sur la forme de l'humour, quelles peuvent être nos représentations. Et puis une troisième chose qu'on peut faire, par exemple, c'est lire ou regarder des vidéos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes concernées, ou en tout cas des personnes qui subissent le poids des discriminations, qui s'expriment sur la manière dont elles le vivent, qui s'expriment aussi sur la manière dont elles pourraient être évitées par certaines personnes. Donc c'est aussi se documenter, faire cet effort de documentation.
Dans ce qui va être abordé lors de la conférence, vous parlez d'apprendre à identifier ce que vous appelez des micro-agressions, qui sont des propos souvent banalisés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une micro-agression et nous expliquer comment on peut y réagir efficacement?
Alors, les questions des micro-agressions, je vais peut-être pas citer un exemple précis, mais par contre, de bien définir ce que c'est. En fait, c'est plein de tous ces propos ou ces comportements qui, effectivement, sont extrêmement banalisés, quotidiens, mais pas uniquement. Les micro-agressions, elles peuvent parfois recouvrir un caractère tout à fait hostile, puisque le mot micro ne veut pas dire petit. Ça veut dire que c'est des formes de discrimination qui se jouent à un niveau micro-interactionnel, c'est-à-dire entre deux personnes ou un petit groupe de personnes. Donc ça, déjà, c'est une base de définition. Et en fait, ces propos, ces comportements qui peuvent ne pas être volontaires du tout, la plupart du temps, en fait, ont pour fonctionnalité de rappeler quelles sont les normes sociales, les hiérarchies sociales. Donc ça peut être des propos extrêmement quotidiens, mais qui vont pointer quels sont les groupes de personnes qui sont vues comme étant différents, comme ayant moins de valeur, étant dans l'autre, dans l'altérité. Voilà, en fait, ce que vont être les micro-agressions.
Finalement, ce que vous disiez, c'est que l'humour banalise énormément et c'est une représentation de la société d'un système parfois défaillant.
Exactement, c'est-à-dire que l'humour qui porte sur les identités, hein, on parle bien de cette forme d'humour spécifiquement, c'est des formes d'humour en fait qui vont souvent s'appuyer sur des traits de l'identité qui sont déjà dévalorisés dans la société. Donc par exemple, on entend peu de blagues sur des hommes blancs hétérosexuels en emploi, je sais pas, beaux, etc. Et ces types de blagues portent sur des traits de l'identité qui sont déjà dévalorisés, ce qui veut bien dire que au-delà de notre intentionnalité individuelle qui est parfois de faire rire, voilà, voir qui peut nous amuser, c'est bien de regarder la fonction sociale de ces formes d'humour et de l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui, du coup, vont, on va dire, être davantage visées par ce type d'humour.
Vous allez aborder un point essentiel, c'est que finalement, la connaissance du droit est un levier important dans la lutte contre les discriminations.
Bah, le droit sur les questions de discrimination a énormément de sens. Il nous donne des repères, c'est-à-dire qu'il y a plein de situations qui vont être caractérisées comme étant illégales, mais qui pour certaines personnes ne vont pas forcément paraître injustes. Donc plutôt que d'être sur un débat d'opinion de qu'est-ce qui est juste ou non, ça nous permet de poser un cadre qui nous dit, est-ce qu'à certains moments on franchit une ligne ? Donc ça déjà, ça nous permet de nous poser nos questions sur nos responsabilités, en tout cas qu'on va avoir, mais aussi de connaître nos droits. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, en fait, elles vont penser que certains actes qu'elles subissent sont moins graves que ce qu'elles pensaient, puisque justement il y a une normalisation dans la société. Et du coup, ça permet de prendre conscience que certains actes sont graves, sont délictuels, parce qu'il faut placer les mots tels qu'ils sont. Et donc, ne serait-ce que pouvoir être déjà validé dans leur ressenti et éventuellement de savoir qu'elles peuvent saisir la justice sur certaines actions.
Pour revenir donc sur la conférence, c'est une conférence, on l'a dit, active. À qui est-ce qu'elle s'adresse ?
Alors là, cette conférence, l'idée, c'est qu'elle puisse s'adresser en priorité aux professionnels et aux bénévoles d'un réseau de structures du territoire, mais qu'elle puisse éventuellement aussi être ouverte à des usagers et usagères qui seraient particulièrement intéressés par le sujet. L'idée, c'est de se dire, toute personne qui serait déjà impliquée sur les questions de discrimination et qui souhaite en savoir plus, c'est des personnes qui sont alliées à la cause. Et quand on est allié à cette cause, c'est important de pouvoir être renforcé dans notre capacité à agir. C'est vrai que des fois, on a l'impression, on nous dit que ce type d'événement devrait être destiné particulièrement aux personnes qui seraient résistantes au sujet. Mais en fait, c'est tout à fait important et logique aussi de renforcer les capacités d'action des personnes qui sont alliées au sujet.
Et alors, vous insistez sur la co-construction de stratégies. Quelles sont peut-être les initiatives concrètes que les participants peuvent mettre en place après votre intervention ? L'idée, c'est de donner des cartes, justement.
Ouais, l'idée, c'est que déjà, on peut agir à un niveau vraiment très quotidien, je ne sais pas, en parlant à ses enfants, à ses amis, à ses proches, etc. L'investissement déjà très quotidien est extrêmement important. J'ai parfois l'habitude de comparer dans le champ de l'écologie, c'est-à-dire qu'au niveau quotidien, on peut faire le tri des déchets et c'est déjà une implication qui est très importante si on n'a pas le temps ou la possibilité de faire quelque chose à plus large échelle. On peut travailler aussi au niveau de sa structure et de la définition de politique interne au sein de sa structure. On peut agir d'une manière militante, on peut agir d'une manière politique. Peu importe, en fait, il n'y a pas à hiérarchiser ces niveaux d'implication. Ils contribuent tous à faire changer une culture collective qui peut aller vers plus d'égalité, en tout cas.
Floriane, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui en France pour une lutte efficace contre les discriminations, puisque ce sont quand même des sujets abordés dans le système éducatif, et malgré tout, on remarque un retour en force de ces discriminations.
En fait, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. C'est sûr que quand au niveau politique, le sujet est porté dans la société, ça donne, on va dire, une direction collective. Ça, c'est un premier élément. Mais encore une fois, ce message, il peut être aussi porté au niveau d'un territoire, au niveau d'une structure, et c'est déjà extrêmement mobilisant. Peut-être un deuxième point qui serait nécessaire, c'est l'application de la loi, qui est parfois, on va dire, pas satisfaisante et pas suffisante au niveau de la société. Mais encore une fois, elle peut se questionner au niveau de structure, c'est-à-dire que il y a parfois un manque de sanctions ou en tout cas un manque de recadrage ferme face aux propos du quotidien, par exemple. Et c'est vrai que mettre en place aussi des formes de tolérance zéro, on va dire, au sein des structures, ça permet d'éviter des dérives, en tout cas. Donc ces deux éléments-là me paraissent primordiaux, en fait, pour changer des éléments de manière structurelle, affirmer un engagement clair, avec force, et l'appliquer concrètement aussi.
C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années, mais j'imagine que dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, vous trouvez particulièrement du sens à ce combat.
En fait, pour moi, l'enjeu dans le rôle que j'ai pris dans cette lutte, qui est essentiellement de rencontrer des personnes, de diffuser de la connaissance, d'améliorer la réflexion. Pour moi, l'enjeu que je vois aujourd'hui, c'est de porter une parole qui est juste de manière juste et qui peut être entendue de manière juste. Voilà, c'est mon enjeu personnel dans ma façon d'agir, en tout cas.
Et donc, pour cette conférence active qui aura lieu donc le mardi 25 mars, vous serez accompagnée de Patricia Tonnelier, qui, elle, est designeuse et facilitatrice graphique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Voilà, alors le travail de Patricia, il a énormément apporté sur les messages que je porte, puisqu'en fait, elle anime visuellement en direct ce que je suis en train de dire. Donc, elle va, grâce à des schémas, à des illustrations, pouvoir venir renforcer les messages que je porte. Et on va dire que ça permet pour des personnes qui ont des modalités d'apprentissage qui peuvent être diverses, puisque certaines personnes vont être plus sensibles à l'oralité et d'autres personnes vont avoir plutôt besoin de voir des choses visuellement, et notamment sur le plan schématique. Et donc, en fait, on peut animer, compléter le message de ces deux façons-là. Et je vois bien que ça fonctionne extrêmement bien. L'idée, c'est que des personnes puissent aussi prendre des photos de ces schémas de manière à pouvoir en reparler plus facilement après autour d'elles. Donc, le travail de Patricia est un enrichissement incomparable, en fait, pour pouvoir porter ces messages d'une manière plus efficace.
Vous êtes également la co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle 40 activités pour renforcer son courage social, publié aux éditions Jouvence. Si vous deviez peut-être retenir une seule activité, laquelle recommanderiez-vous à quelqu'un qui veut commencer à s'engager ?
Alors, c'est celle qui s'appelle la Power Flower. Et cet outil, en fait, il permet d'identifier, en fonction de nos critères, de notre identité, qui composent notre identité et qui sont multiples, d'identifier sur la base de certains critères, est-ce qu'on est plutôt favorisé au sein de notre trajectoire, tout au long de notre trajectoire de vie, ou plutôt défavorisé. Et ça, cet outil, il est déjà un travail introspectif extrêmement précieux, parce qu'il va nous permettre de regarder, est-ce qu'on a des angles morts, c'est-à-dire que si sur certains critères de mon identité, je suis plutôt favorisé, il est possible que je n'ai pas conscience de la manière dont d'autres personnes sont défavorisées sur ces critères. Donc ça me permet, en fait, on va dire, de m'assurer d'être raccord entre les valeurs que je vais porter et la manière dont je vais les incarner. Donc vraiment, je recommanderais une activité en particulier, c'est cette activité-là.
Donc il est encore temps de s'inscrire à cette conférence que vous proposez à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations organisées par le collectif Unissons nos différences. Cette conférence aura lieu, je le rappelle, le 25 mars à Mayenne de 9h à 17h. Merci beaucoup Floréal Soto de nous avoir accordé ce temps.
Je vous remercie beaucoup aussi. Merci à vous.
L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local continue juste après la pause musicale, Maxime.
Et oui, on va écouter I'm So Confused de Oti.
I'm so confused right now, baby. Didn't work. Michel-Ange. Tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Si je te dis de me parler des femmes, tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées. Mais tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller près d'une femme et de te sentir vraiment heureux. Tu es un coriace.
Il y a certains mots mis dans un certain ordre que j'aurais aimé écrire moi-même et pour toi.
Lesquels ?
Eh bien, attends, écoute ça.
D'ordinaire, c'est la voix d'un auditeur ou d'une auditrice qui résonne à ce moment-là, mais cette fois, un petit souci technique m'empêche de vous faire entendre la lecture prévue. Alors, j'en profite pour vous partager quelque chose, c'est l'occasion, puisqu'aucune lettre n'a été lue, eh bien, j'en ai choisi une, écrite par Frida Kahlo pour Diego Rivera. Rien n'est comparable à tes mains, rien n'est pareil à l'or liquide de tes yeux. Mon corps est rempli de toi pendant des jours et des jours. Tu es le miroir de la nuit, la lumière violette de l'éclair, l'humidité de la terre. Le creux de tes aisselles est mon refuge, mes doigts touchent ton sang. Toute ma joie est de sentir la vie jaillir de ta fleur fougère que la mienne remplit toute. Tu veux savoir pourquoi je t'aime, mon Diego? Parce que tu tiens ma main et que tu caresses mes pensées. Parce que tu es un géant en qui je peux me fondre sans jamais cesser d'être moi-même. Parce que dans chaque baiser, il y a un poème et dans chaque absence, une attente brûlante. Si jamais tu oublies, un jour, combien je t'aime, pose ta main sur ton cœur, il bat au même rythme que le mien. L'agité du local sur l'autre radio. Hier, on découvrait le programme Alterfix et les enjeux de la transmission agricole. Maintenant, direction le terrain, au plus près de celles et ceux qui imaginent leur avenir en agriculture. S'installer en agriculture biologique, c'est bien plus qu'un projet professionnel, c'est un choix de vie, une aventure qui soulève autant d'envie que de questions. Maëlle et Nathan ont grandi avec l'idée de reprendre une ferme familiale, mais entre tradition et évolution, comment construire leur propre chemin. Dans cet épisode, ils nous racontent leur parcours, leurs doutes et ce qu'ils viennent chercher à Alterfix pour donner vie à leur projet. Vous êtes tous les deux participants en tant que porteurs de projet justement à ce programme Alterfix. Qu'est-ce que vous venez chercher ici en participant à ce programme-là ?
Moi de mon côté, c'est à la fois rencontrer du monde, partager, échanger, passer des bons moments autour de, de ces questions d'installation agricole, d'échange de pratiques, et aussi parce que c'est quelque chose qui est important pour moi de contribuer aux dynamiques de transmission installation sur le territoire, à la fois parce que j'ai pas envie dans 10 ans de me retrouver à être toute seule paysanne dans les campagnes. C'est un enjeu clé en fait de faire en sorte qu'il y ait de la relève, de voir comment est-ce qu'on peut rendre ce métier attractif. Et ça passe par créer les dynamiques, favoriser des imaginaires qui font qu'on peut s'installer par exemple en collectif ou mêler du socioculturel sur l'activité agricole. Enfin voilà, pour moi l'Alterfix ça contribue aussi à tout ça en fait. Et aussi pour les cédants, de leur permettre de se projeter plus facilement sur comment transmettre leur ferme, pas forcément que sur l'activité qu'ils ont connue eux pendant toute leur carrière.
J'avais participé au camp Alterfix dans l'Orne pendant 2 ans et j'avais vraiment aimé la dynamique que ça crée dans le territoire entre les porteurs de projets, avec les agriculteurs et les autres personnes aussi qui travaillent autour de l'installation, les autres organismes. Et du coup, quand j'ai su qu'il y avait l'Alterfix qui se déployait en Mayenne, j'étais trop content vu que j'allais moi m'installer en Mayenne aussi. Et ça me permet de créer du réseau, du lien avec les autres porteurs de projets, de confronter un peu mon projet à ceux des autres et de se motiver en fait collectivement à s'installer, partager nos expériences, nos vécus, nos bons plans, nos mauvais plans, tout ça.
Et du coup, donc vous reprenez tous les deux une ferme de quelqu'un de votre famille. Est-ce que vous avez déjà des idées pour faire évoluer le projet déjà existant, ou est-ce que vous, pour l'instant, vous vous lancez dans ce qui a été déjà mis en place dans le même système ?
Des idées, ouais, c'est pas ça qui manque. Après, c'est plutôt des fois la réalité de la mise en place ou des fois des temporalités. Surtout, en fait, c'est surtout une question de temporalité. Je me rends compte aujourd'hui. De base, quand j'ai commencé à mûrir le projet, je rêvais d'installation en collectif et de diversification. Donc, j'avais lancé des pistes en ce sens. Aujourd'hui, les temporalités des uns des autres font que je vais plutôt m'installer d'abord en individuel. Donc, reprendre le système à l'identique et déjà bien maîtriser ces bases-là et que les briques du potentiel collectif ou de diversification viendront dans un second temps. Ça reste une envie, mais voilà, les priorités aujourd'hui, elles ont un peu changé.
Ouais, moi, mon projet, il va rien avoir avec celui existant, qui était celui d'un locataire, qui a un système plutôt traditionnel avec du maïs. Et moi, je vais être sur un système plus pâturant. Un système pâturant, c'est un système basé sur l'herbe, où la vache, elle va aller pâturer elle-même l'herbe, plutôt que de l'amener au bâtiment. Donc, tu vas aller chercher dans le champ pour aller la traire. Et c'est un système où tu vis avec les saisons et l'environnement. Tu fais pas la même chose, en fait, en hiver ou en été. Et il y a aussi la récolte des fourrages qui va plus se situer au printemps, où là tu vas récolter de l'herbe. J'ai tous les paddocks, les parcelles à implanter, les clôtures à faire, et après aussi à acheter un troupeau, mettre en place mon système, en fait. Donc tout va changer. Je reprends juste le bâtiment et le foncier.
Quels sont peut-être les principaux défis auxquels vous êtes confrontés là, quand vous êtes en train de justement de vous questionner sur, enfin pas de vous questionner, mais de vous préparer à reprendre une ferme?
Il y a beaucoup de questionnements à tous les niveaux. C'est ça qui est passionnant. Enfin, en fait, c'est à la fois on apprend, on va devenir à la fois gestionnaire d'entreprise, mais une entreprise qui travaille avec du vivant végétal, animal, d'autres humains aussi potentiellement, que ce soit des salariés, mais aussi des dynamiques d'entraide sur le territoire comme avec les Cumas. Et donc, il y a tout ça à appréhender en même temps. Un des questionnements, par exemple, aujourd'hui, c'est comment je trouve ma place sur toute la partie mécanisation qui est là sur la ferme. Donc, me sentir légitime et trouver le bon tempo pour moi pour apprendre à conduire les cultures, enfin mener les cultures, donc avec les engins agricoles qui servent à ça, quoi. Trouver ma place dans cet écosystème-là sur quelque chose qui est du coup moins intuitif que par exemple le lien avec les animaux ou la réflexion autour de la gestion des haies, des choses comme ça.
Il y a eu une question tout à l'heure qui était sur par exemple la monotraite aussi pour dans le temps de travail qui est considérable dans l'agriculture sur une semaine, sur une journée. Il n'y a pas vraiment de week-end. Est-ce que c'est des questions également que tu peux avoir toi en tête en te disant, bon, l'équilibre vie perso, vie pro, est-ce que c'est une question?
C'est hyper central. Par exemple, je ne concevrais pas mon projet toute seule, complètement toute seule sur la ferme s'il n'y avait pas le salarié à mi-temps, par exemple. C'est hyper sécurisant pour moi sur le projet de savoir qu'il y a quelqu'un qui est déjà en place, qui connaît déjà la ferme et qui va pouvoir être là et me filer un coup de main, en fait. Il y a aussi la question de la monotraite, elle se pose. En fait, moi j'ai de la chance, mon père l'a déjà mis en place depuis 20 ans le dimanche, donc le reste de la semaine il traite deux fois par jour, mais par contre les week-ends déjà c'est réfléchi pour être vraiment allégé en termes d'astreinte, donc ça c'est top, et on a toujours pris des vacances, donc voilà, c'est possible, il y a du service de remplacement, il y a déjà toute cette culture-là qui est déjà en place, quoi. Et après, moi de la réflexion c'est plutôt, bah, si un jour dans les années à venir par exemple j'ai des enfants, bah, j'exclus pas le fait à ce moment-là de passer en monotraite de manière plus régulière, sur une période donnée, pour pouvoir passer plus de temps avec les enfants sur des périodes données, quoi.
Maëlle et Nathan avancent pas à pas vers leur installation entre héritage et modernité. Alterfix leur offre des clés, mais les choix leur appartiennent encore. Dans le prochain épisode, on parlera d'un enjeu essentiel pour l'avenir des fermes, allier élevage et bocage, préserver le paysage tout en valorisant ses ressources. Comment concilier écologie et agriculture? C'est ce que l'on découvrira ensemble demain. Nos émissions se terminent toujours avec une chronique, vous le savez. Alors maintenant, place à notre maître des mots et des idées. Donatien, c'est à toi.
Comme tout un chacun, Donatien aime croiser par hasard vedettes et gens connus. Ça l'amuse de les surprendre dans la banalité de leur quotidien. Tel acteur remplissant son chariot au supermarché, tel humoriste partageant la même rame de TGV, telle célébrité errant comme une âme en peine dans un hall de gare, anonyme, un peu perdu. Ou encore, telle présentatrice de la télévision dans un salon de thé en tête-à-tête, avec un jeune homme visiblement flatté. Fut un temps où Donatien éprouvait pour les grands de ce monde une certaine fascination. Il osait alors se précipiter maladroitement pour obtenir un autographe. Aujourd'hui, les fans et les badauds se brûlent à leur étoile pour obtenir un précieux selfie qu'ils s'empresseront de poster sur leur réseau. Un ami proche de Donatien a l'habitude de, par son travail, de contacter les vedettes de cinéma, de la mode, les hommes et les femmes du pouvoir économique ou politique, celles et ceux qui font la une des magazines, qui tirent les ficelles et sont invités au journal télévisé. Donatien serait bien prétentieux de dire qu'en vieillissant, il se drape de sagesse. Ce serait plutôt du désenchantement. Devant les people tombés de leur piédestal, Donatien est déçu, comme devant ces acteurs démaquillés qui se livrent après leur spectacle à un bord de scène, ou ces autres qui s'exhibent en avant-première et se vautrent dans la trivialité. Quand ils n'ont plus leur costume, les Bob Marley, Aznavour, Elvis Presley, Barbara et Sarah Bernhardt sont des gens ordinaires. À la fin de la représentation, Donatien ne court plus dans la loge pour féliciter l'actrice ou l'acteur. Il repart avec en tête des images et pour compagnie un personnage affublé d'un long nez mais plein de panache, un autre coiffé d'un bicorne, une autre dans une somptueuse robe de bal. Donatien ne veut pas croiser Sophie Marceau, mais il veut rêver de la fille de D'Artagnan, croisant le fer, chevauchant sur les collines du Béarn ou galopant dans les allées forestières de Fontainebleau. S'il lui arrive de partager un café sur une terrasse, Donatien choisit parmi les grands de ce monde un passant. Une vague connaissance, une relation, un voisin, ou même un quidam rencontré par hasard, dont la vie vaut tous les longs métrages de la cinémathèque. Un individu méconnu dont l'humilité est une forme de charité. Un de ces hommes, une de ces femmes qui n'ont pas besoin d'enfiler un costume pour être un personnage haut en couleur, chargé de saisons, riche d'émotions, encore animé d'une dévorante passion. Au-delà des chagrins et des enthousiasmes, au-delà de l'impatience, au-delà de la vie, Donatien écoute les soupirs, les hésitations, et au-delà de la conversation, Donatien écoute le silence.
Ouais, rien à monter, je l'ai rencontré une fois Depardieu comme ça à la gare de Nîmes, mais comme un malheureux, quoi, il savait pas quoi faire de lui, il avait l'air complètement paumé de chez paumé, quoi. Patrick Devers faisant ses courses une fois au supermarché d'Angers, avant qu'il meure, je te prends, et depuis je l'ai jamais rencontré.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le reste entrez-vous. Il fut un temps où j'étais.
Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonnée.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais. Malgré tout, mes
C'était Un homme debout de Claudio Capeo, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Floréal Soto d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à Donatien. Merci à vous deux, Ronan et Maxime. D'ailleurs, messieurs, c'est quoi la suite sur l'autre radio?
On commence la soirée à 19h avec La Pesse.
Nous rencontrons Coralie Croissant, créatrice du tiers-lieu Le Touche-à-Tout à Livré-la-Touche, et Tatiana Bourgo, membre de l'association depuis le début.
Et ensuite,
on rentre dans le monde du rap à 21h avec Frères de Chaussures.
Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local et nous serons avec l'association 5 Sens qui organise ce 22 mars un événement techno à l'Hippodrome de Laval. D'ici là, trouvez là où se trouve le petit éclat de douceur de votre journée, il y en a un, et gardez-le précieusement. Et comme chaque jour, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.